finalement, c'est un rite de passage, parce qu'on paraît devant ses pères.
Il y a là une tradition qui remonte au XVIe siècle.
Moi, je me souviens de la leçon inaugurale de Raymond Aron. Bah, il était vert de peur.
Une mode insensée s'est emparée du bergsonisme et on faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma.
Les leçons inaugurales du Collège de France, coordination, Meryl Moneghetti.
S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche.
Lévi-Strauss, le jour de sa leçon inaugurale, debout dans le fond contre la porte de droite, il y avait Alain Cuny, vous voyez, l'acteur Alain Cuny. Et je me suis dit, c'est quand même extraordinaire, il n'y a pas que nous.
C'est très émouvant, le nouveau professeur est introduit par cette petite porte et à ce moment-là, cette immense table autour de laquelle il y a tous les grands savants, tout le monde se lève pour vous voir entrer par là. Il y a vraiment un moment très émouvant.
Vous voici conviés dans le grand amphithéâtre du Collège de France auquel s'associe France Culture pour une nouvelle leçon inaugurale. Cet état des lieux d'une recherche en cours est aussi le reflet des mutations de notre monde. Quel travail sur les mots et les textes grecs ? Comment cet incessant questionnement de la formation et du développement de la pensée grecque sert les hommes et les sociétés d'hier à aujourd'hui ? Pourquoi cette culture va-t-elle au-delà de la Grèce, demande Jacqueline de Romilly au moment où elle crée et défend la chaire intitulée « La Grèce et la formation de la pensée morale et politique ». Ce professeur formidable et passionné dans le souvenir de ses nombreux élèves marque son émotion d'entrer au Collège de France. C'est sa voix qui témoigne dans notre générique du rituel qui lie les nouveaux entrants à leur père dans la grande maison fondée sous l'égide de François Ier et l'impulsion de Guillaume Budé. Une institution toujours soucieuse d'un savant équilibre entre les innovations et des fondements classiques, sinon éternels. Jacqueline de Romilly, brillante pupille de la nation, guidée par sa passion du grec et du bien commun, a souvent été la première dans tous les sens du mot. Et en décembre 1973, elle est la première femme à entrer au Collège de France. Elle s'en amuse, et plus que le gain féministe, c'est le combat de toute une vie en faveur du maintien des études hellénistes que cette grande spécialiste de Thucydide met d'emblée en avant, et je la cite. « Je veux voir, dit-elle dans sa leçon inaugurale, dans le geste du Collège de France, un geste symbolique propre à marquer en notre temps de crise du grec le fidèle attachement de cette maison à une discipline qui fut sa vocation initiale. » Bien des années plus tard, en 2000, alors qu'elle est devenue pour le grand public la vigie d'une certaine idée de la transmission et de la vitalité de l'hellénisme de l'enseignement secondaire à la recherche, dans un recueil intitulé « Pour l'amour du grec » et dirigé en collaboration avec son collègue du Collège de France, Jean-Pierre Vernant, autre grand spécialiste de la Grèce antique, Jacqueline de Romilly, à propos des valeurs humanistes, écrit ainsi « Ces valeurs ne s'acquièrent que dans un contact prolongé avec tous les hommes qui nous ont précédés et surtout ceux qui ont médité ces valeurs, qui en ont parlé, qui les ont illustrées. Celles qui s'attachent au travail, au plus près des mots et des textes, d'Homère à Euripide, demandent dans sa leçon inaugurale comment l'hellénisme a pu renaître et mourir tel le phénix. De crise en renaissance, cet éternel retour à quelque chose d'émouvant, déclare-t-elle. Si les histoires des Grecs ne sont pas usées, elles montrent en parallèle le dynamisme de la recherche renouvelée par les apports de l'histoire, de l'épigraphie, de l'archéologie, de la linguistique et même du structuralisme, nous sommes en 1973. Mais en philologue, elle revient toujours aux mots, comme le mot « libre », dont elle tisse l'évolution en parallèle d'une pensée grecque qui joue des combinaisons et de l'esprit d'une langue qui impose le mouvement vers l'idée. C'est Clémence Azincourt qui prête sa voix à Jacqueline de Romilly pour sa leçon inaugurale. Et nous gagnons le grand amphithéâtre du Collège de France le 13 décembre 1973.
Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, être accueilli par le Collège de France ne va pas sans émotion. Et dans des occasions comme celle-ci, mes prédécesseurs ont souvent avoué qu'à une grande reconnaissance se joignait pour eux une soudaine timidité. Qu'aurait-il dit à ma place ? Moi pour qui les professeurs du collège ont bien voulu faire une innovation généreuse par rapport aux habitudes de toujours, en se donnant non pas un collègue, mais une collègue, au lieu de la renvoyer aux méchants propos de l'Ajax de Sophocle, si mal appliqués aujourd'hui. La parure des femmes, femmes, c'est le silence. Et moi surtout qu'ils ont appelé à l'un des enseignements les plus anciens et les plus glorieux de ce collège de France où naquit notre hellénisme. Comment ne pas ressentir un émerveillement mêlé de frayeur à l'idée de s'insérer dans une telle tradition, de succéder à des maîtres qu'avait choisi et suscité Guillaume Budé lui-même, dans une maison qui accueillit jadis Turneb, Dora ou Casaubon, dans une maison aussi où enseignaient naguère Maurice Croiset, Émile Bourguet, Paul Foucard, et où aujourd'hui l'épigraphie grecque est représentée avec un éclat si exceptionnel. J'ajouterais que le fait de succéder à un savant comme Henri-Charles Puech, même si c'est par une ligne que l'on pourrait appeler collatérale, n'est point fait pour diminuer ce sentiment de timidité. Il n'est que trop compréhensible, et croyez-moi, je l'éprouve du fond du cœur. Pour toutes ces raisons, l'honneur qui m'est fait est donc presque accablant. Je ne puis y répondre qu'en vous exprimant, monsieur l'administrateur, et en exprimant aux professeurs du Collège de France ma vive et profonde gratitude. On permettra que j'y joigne un mot de reconnaissance particulière à l'égard de Paul Lemerle. Je n'oublie pas que sans sa confiance et ses encouragements, je ne serais pas ici. Au reste, si l'honneur qui s'attache pour moi à la décision du Collège de France est en un sens presque accablant par bonheur, il a aussi quelque chose de profondément stimulant. Succéder à de tels savants crée une obligation. Être entouré de tant de science et de talent la renforce. Et je ne puis m'empêcher de rappeler à cet égard une belle phrase que j'ai citée jadis pour sa seule beauté, sans prévoir quel sens elle prendrait un jour dans ma vie. C'est une phrase d'Alexandre de Humboldt expliquant sa joie de travailler à Paris et disant « Je sens tous les jours que l'on ne travaille bien que là où d'autres autour de vous travaillent mieux. » À cette raison de joie, s'en ajoute pour moi une autre, qui, si elle est moins personnelle, n'en est pas pour autant moins chère à mon cœur. C'est que je veux voir dans le geste du Collège de France un geste symbolique, propre à marquer, en notre temps de crise du grec, le fidèle attachement de cette maison à une discipline qui fut sa vocation initiale et qu'elle fut la première à instaurer. Guillaume Budé est toujours là, dans la petite cour de la rue Saint-Jacques, et sa présence, à cet égard, me semble tutélaire. Mesdames, messieurs, bien qu'il s'agisse de la Grèce, je ne parlerai pas ici de cette crise des études grecques, car elle n'atteint encore en aucune façon le niveau de la recherche. Pourtant, lorsqu'une discipline qui a connu une large diffusion se voit ainsi attaquée et détruite à la base, l'on peut se demander si son avenir scientifique n'est point lui-même menacé à plus ou moins long terme. Et l'amertume s'accroît de ce que le mal tient moins à une désaffection spontanée qu'à une réforme récente dans l'organisation même des études. Ce n'est pas dans la maison de François Ier qu'il est besoin de rappeler toute la portée que peut prendre une décision venue d'en haut, qui peut être bonne ou mauvaise. Hélas, nous attendrons peut-être longtemps avant de voir un de nos dirigeants écrire avec la courtoise fermeté du roi. En effet, des hommes distingués dans les lettres nous ont représenté que les arts, l'histoire, la morale, la philosophie et presque toutes les autres connaissances découlent des écrivains grecs comme les ruisseaux de leurs sources. Quoi qu'il en soit, cette crise me fournira seulement aujourd'hui l'occasion d'un rapide regard en arrière vers le destin changeant de l'hellénisme et vers ses facultés de renouvellement. L'hellénisme, en effet, jusqu'à présent, du moins, meurt et renaît, comme le phénix. On pouvait croire l'hellénisme mort avec la Grèce elle-même, lorsque les Romains le ranimèrent pour y rattacher leur culture naissante. À Byzance même, le contact avec l'Antiquité allait en se perdant, avant des gens comme Photius, puis Psellos. Pendant ce temps, l'hellénisme était bien mort en Occident. Il ne devait renaître, pour la France, que très modestement, au XIIIe siècle, puis glorieusement au XVIe. Même alors, on ne peut qu'être saisi de voir l'obstination infatigable que durent déployer des gens comme Budet, en but aux railleries des courtisans. Et malgré ce que l'on croit parfois, même alors, la victoire ne devait pas aller sans à-coups. À la fin du XVIIIe siècle, et pendant la Révolution, on crut presque à la mort du grec. Le père Berthier écrit en 1753 « Dans 30 ans, personne ne saura lire le grec ». Mably se plaint, en 1766, de ce qu'on lui dit si souvent « Laissez vos grecs, leur histoire est usée, on est là d'entendre parler de la bataille de Salamine et de la guerre du Péloponnèse ». Dacier, un peu plus tard, écrit à Napoléon que la philologie ne trouve plus personne pour la cultiver. Après quoi, Heger constatera, en 1866, on peut dire que nous assistons à une sorte de renaissance des lettres grecques et latines. De crise en renaissance, cet éternel retour a quelque chose d'émouvant. L'on imagine le petit Thucydide ou le jeune Plutarque, puis le jeune Virgile, le jeune Racine, le jeune Giraudoux, se penchant tour à tour sur le même Homère. Mais cette pérennité risque fort de donner une idée très inexacte des études helléniques. Car elle n'empêche pas qu'au niveau de la recherche, et par suite à tous les niveaux, l'esprit change et se renouvelle. Comment se font ces renouvellements? L'exemple du XIXe siècle est bien fait pour nous l'apprendre, parce qu'il est plus célèbre, ou comme dirait Platon, écrit en plus grand caractère. Il est aussi plus lisible. Or, à cette époque, soudain, le point de vue est autre. Dès 1795, en Allemagne, Friedrich August Wolff publiait ses Prolégomènes à Homère. Il ouvrait ainsi la question homérique. Ce n'était plus le même Homère. Bientôt, Bock, élève de Wolff, donnait un sens nouveau à la philologie, en fondant une méthode historique ayant pour objet de restituer la vie d'un peuple dans sa réalité politique et sociale. Ottfried Müller, élève de Bock, s'intéressait aux peuples les plus négligés du monde ancien. Et les découvertes portant sur la civilisation rejaillissaient sur l'étude même de la littérature. Les exigences scientifiques de l'une s'étendaient à l'autre, la matière se renouvelait rapidement et l'intérêt même devenait différent. D'un coup, on cessait de demander à la littérature grecque des modèles comme on l'avait toujours fait, modèles littéraires ou philosophiques, ou plus tard, modèle politique. Au moment même où Pierron se félicitait encore de penser que les lecteurs de son histoire de la littérature grecque reviendraient de cette sorte de voyage à la recherche du beau, muni de quelques nobles sentiments de plus dans le cœur, Ottfried Müller entreprenait une autre histoire de la littérature grecque qui associait littérature et civilisation et s'attachait plus aux sinuosités d'un développement qu'à l'étude de ses apogées. La littérature grecque cessait d'être désincarnée et s'insérait dans l'histoire tout court. Or, l'histoire de la littérature grecque des frères Croiset, un demi-siècle plus tard, en 1887, marque bien la victoire de ses vues. On y trouve l'éloge d'Ottfried Müller et on y lit, à la première phrase, « C'est une vérité courante aujourd'hui et presque banale que l'histoire d'une littérature pour répondre aux exigences de la science, doit être étudiée dans un esprit essentiellement historique et non dogmatique. » La révolution était donc accomplie. Et l'important est de bien voir que l'élan ainsi pris vaut encore pour le présent. Les études grecques avaient été renouvelées d'abord par la collaboration des disciplines historiques, comme l'épigraphie, l'archéologie la numismatique, qui apportait aux Grecs, en même temps que leur rigueur, une information fraîche. Or, leur rôle se poursuit, et les progrès de la papyrologie ou de l'histoire des textes y joignent leur concours. De tous côtés surgissent des documents nouveaux. Des textes inconnus revivent. Ménandre est un auteur tout neuf des 30 dernières années, et l'œuvre d'Euripide augmente doucement. Des dates changent et remettent tout en question. On apprend un beau jour que les suppliantes d'Eschyle, loin d'être la première des tragédies conservées, sont au contraire une pièce tardive. Pour les mots et les idées, voici tout à coup que le déchiffrement du Mycénien permet de faire remonter l'hellénisme de plusieurs siècles en arrière. Mais ce n'est pas tout. Le grand facteur de renouvellement n'avait-il pas été, au XIXe siècle, l'esprit historique lui-même et ses curiosités? Or cet esprit vit toujours. Il vient même d'élargir encore le champ de son intérêt. Je le montrerai tout à l'heure. Et pourquoi d'autres disciplines, d'autres méthodes, n'auraient-elles pas aussi leur rôle à jouer? Le développement de la linguistique nous aide déjà, comme le prouvent les travaux d'Émile Benveniste. Celui de l'anthropologie ou des méthodes structuralistes modifie sans nul doute, même chez ceux qui n'en sont pas les adeptes directs, la façon d'interroger un texte ou un document. Or, toute recherche avance à coup de questions neuves. Mais avant de poursuivre ces perspectives jusque dans le présent et dans l'avenir, vous permettrez que je m'arrête au souvenir d'un homme que j'ai déjà nommé pour ce qui le liait au renouveau historique du XIXe siècle et qui, en fait, incarna le rayonnement des études grecques en France au début du XXe. Je veux dire Maurice Croizet. Certes, l'hellénisme a été représenté au Collège de France depuis son départ. J'ai moi-même suivi les derniers cours d'Émile Bourguet. Cet archéologue, spécialiste de Delphes et curieux de dialecte grec, savait aussi expliquer les textes d'Homère ou de Thucydide d'une façon que l'on n'oublie pas. Les noms de Paul Foucart et de Maurice Hollot sont de grands noms dans nos études. Mais il se trouve que l'œuvre de Maurice Croizet représente une forme de l'hellénisme dont le titulaire d'une chaire comme celle qui m'a été confiée doit avoir la fierté de se réclamer. Maurice Croizet fut pendant 37 ans professeur de langue et littérature grecque au Collège de France. Il en fut même de 1911 à 1929 l'administrateur, ce qui, je crois pouvoir le dire, témoigne déjà de l'estime où le tenaient ses collègues. Il fut également l'un des principaux fondateurs et le premier président de cette association Guillaume Budet, qui se réclame du même patron que le Collège de France et qui demeure, grâce à ses éditions de textes grecs, l'un des foyers actifs de l'hellénisme en France. De même, l'œuvre de Maurice Croizet continue, un bon demi-siècle après, à être lue et étudiée. Elle a largement contribué à l'épanouissement de l'hellénisme dans notre pays et elle lui a donné un certain ton. Car en pleine époque de progrès scientifique, les frères Croizet ont tenu à garder à leurs livres la sobriété, la clarté et même l'élégance qui devait distinguer longtemps la critique française de l'érudition allemande. Pourtant, il serait singulièrement injuste de croire que cette aisance dans le ton impliqua la moindre facilité dans l'information ou la moindre banalité dans l'analyse. Les frères Croizet avaient de la littérature grecque une connaissance sûre, direct et total. Habitués dès leur enfance à lire de façon intensive du grec et du latin, ils n'ont jamais cessé, toute leur vie, d'approfondir cette expérience directe des textes que rien jamais ne remplace. À eux deux, ils ont couvert toute l'histoire de la littérature grecque, et si Maurice Croizet, dans leur ouvrage commun, a traité de la tragédie et de la comédie au Ve siècle, ce qui était son domaine d'élection, il a aussi traité tout ce qui concerne Homère et Hésiode, ainsi que la partie relative à l'époque romaine. Comment enfin, quand on prétend s'occuper de tragédie, ne pas citer son livre, publié en 1928 et récemment réédité, qui s'intitule « Eschyle, étude sur l'invention dramatique dans son théâtre ». Le principe directeur de ce livre ouvre déjà la voie aux recherches les plus modernes, puisque son objet consiste à rassembler, chaque fois, les données que le mythe fournissait à Eschyle, afin de cerner, par contraste, la part de choix et d'innovation qui les transforme, de manière à les rendre, en fait, tragiques. Sans doute un lecteur habitué à nos travaux actuels, plus étayé de références et de discussions détaillées, peut-il trouver dans la présentation de certains de ses livres un côté un peu démodé. Il n'en est que plus remarquable de voir que, malgré le changement des points de vue et le progrès des exigences scientifiques, ces ouvrages restent à la fois si utiles et si peu sujets à la critique. Et j'indiquerai tout à l'heure en quoi l'hellénisme me semble s'engager vers des recherches d'un caractère à la fois neuf et rigoureux. Mais l'abus du mot « scientifique », encouragé par l'organisation monolithique de certaines institutions, comporte également ses dangers. Quand on traite d'œuvres littéraires, et que serait la Grèce sans sa littérature, on ne peut avancer que grâce à une lente accumulation de lectures et de réflexions. Même l'Homère ou le Thucydide de l'école historique, réduit en fragments par l'analyse, trahissait une perte de contact avec l'œuvre vivante, à laquelle il a fallu revenir. À plus forte raison, dans un domaine déjà si largement défriché, ne peut-on espérer qu'une aide fort partielle de ces moyens qui sont aujourd'hui tenus pour la seule panacée et qui vont du travail d'équipe à l'emploi des ordinateurs. Notre science, qui existe, n'a ni les mêmes ressources, ni les mêmes certitudes que les sciences. Qu'une mode le fasse oublier, et l'on risque de voir ou bien proliférer des études tristement marginales, ou bien s'affirmer une confiance arrogante en des preuves qui n'en sont pas. Dans les deux cas, le grec est perdant. Si je rappelle ici ces vérités trop évidentes, ou du moins qui devraient l'être, c'est que précisément, des hommes comme Maurice Croizet ou comme Alfred Croizet, des hommes comme mon maître Paul Mazon, l'admirable Paul Mazon, ou comme son ami Baudin, de qui personnellement j'ai tant appris, nous offrent un exemple propre à nous garder contre les dangers de cette mode. Ils se tenaient au courant de tout, mais savaient élaguer, et savaient ne pas s'abriter derrière une érudition qui n'est souvent qu'un alibi. Ils revenaient toujours au texte, comme ils sied à des philologues. Ils en discutaient la lecture correcte ou le sens, avec une rigueur perspicace d'où sortait la clarté. Beaucoup d'entre nous se souviennent de la façon dont ils démêlaient ces textes, avec tant de fermeté et d'aisance. Mais je sais aussi, pour avoir lu une partie des lettres qu'ont échangées pendant 50 ans Paul Mazon et Baudin, sur quelle discussion minutieuse et patiente de chaque phrase reposait cette fermeté et quelle longue prudence avait nourri ce jugement conscient de sa propre force. Ainsi se gagne, petit à petit, la compréhension plus profonde d'un texte, d'un auteur, d'une époque, d'une civilisation. C'est pourquoi je voulais, au terme de cette revue rapide, unir à l'idée du perpétuel mouvement qui entraîne nos études vers des buts toujours nouveaux et des méthodes perfectionnées, l'idée même du respect fidèle qu'inspire une pareille tradition et qui peut seule donner à ces renouvellements une certaine solidité.
France Culture et le Collège de France vous proposent une lecture de la leçon inaugurale de Jacqueline de Romilly.
À la lumière de cette double exigence, je puis aborder le présent. Entre les diverses formes que peut prendre l'hellénisme, et dans un domaine aussi large et aussi divers que celui de la Grèce classique, ses formes sont multiples, quelle est celle qui inspirera le nouvel enseignement qui vient de m'être confié? Elle se dégage de certains traits qui caractérisent la Grèce ancienne et que la recherche historique semble, au cours des 30 dernières années, avoir mieux mis en lumière, en aidant à prendre une conscience plus nette de ce qui fait la différence entre la Grèce et nous. Et tout d'abord, on semble avoir mieux mesuré le danger qu'il pouvait y avoir à lui appliquer nos catégories trop tranchées. La civilisation grecque se place à un début, avant les distinctions et les séparations auxquelles nous nous sommes habitués, dans un univers où tout est encore proche et associé, le concret et l'abstrait, les dieux et les hommes, la raison et l'irrationnel. Et en même temps, elle accepte et cultive cette union. Elle n'a pas inventé pour rien l'idée d'un cosmos où tout vient se ranger. Dans un dialogue de Platon, le mythe couronne l'analyse. Le sophiste et le raisonneur que fut Gorgias fonde sa rhétorique sur l'exemple de la magie. Et si les dieux, chez Homère, se mêlent aux hommes, ils se confondent, chez les philosophes, avec la raison et le bien. C'est souvent ce qui fait l'attrait et la grandeur des œuvres grecques. Non seulement parce qu'elles répondent ainsi aux aspirations diverses que chacun pouvait ressentir, mais parce que tout, une fois séparé, risque de s'appauvrir. Une tragédie grecque n'est ni un mystère sacré, ni un drame psychologique. Sa richesse, qui est unique, consiste à combiner leur double ressort. Parmi les ouvrages qui ont contribué à mettre en lumière ce trait, au demeurant connu, une place de choix doit être réservée au livre du savant anglais Dodds, intitulé « The Greeks and the Irrational » et paru en 1959. Corrigeant les vues simplifiées et par trop rationalistes qui avaient longtemps prévalu, il a entrepris de montrer que les plus raisonnables des Grecs avaient toujours été conscients de la puissance, de la grandeur et des périls de l'irrationnel. C'était là dévoiler un visage un peu nouveau de la Grèce. Mais dès lors, comment ne pas remarquer qu'en d'autres domaines aussi, le même phénomène se retrouve et que ses effets méritent bien d'être cernés. Au niveau des mots, la conjecture est aussi l'espoir. La vie est aussi l'âme. L'égarement est aussi le désastre. Comment est-ce possible? Et comment se fait le choix? Dans le domaine des idées, la colère ou le désir sont des notions difficiles à définir, dont le sens est tour à tour large et étroit, favorable et défavorable. Si l'on désire comprendre ce que les Grecs en disent, il faudra remonter à ces significations initiales qu'aucune traduction n'épuise, afin de suivre l'effet changeant de leurs tensions internes et de leur ambivalence. Plus haut encore, dans la tragédie, cause divine et cause humaine se superposent et s'associent. Il faut se garder de choisir. Il faut au contraire, dans le détail, suivre le sens et les moyens d'une telle combinaison. À quoi s'ajoute enfin que les Grecs, qui étaient subtils, joueurs et jouteurs, ont pris goût à ces sens combinés. Ils ont aimé à l'occasion, eux de qui nous vient le sens même de la clarté, révéler sans dire, ou dire en voulant dire plus. Parfois, un écho entre deux mots, savamment ménagé, peut avoir plus d'importance que les affirmations directes. Et une parenthèse d'apparence innocente a parfois une fonction révélatrice par rapport au contexte. Pourquoi donc tel cœur lyrique intervient-il dans la tragédie à tel endroit déterminé? Pourquoi donc, chez un historien, telle digression surgit-elle et vient-elle modifier l'éclairage même du récit? Une conscience plus nette de ces diverses complexités, parfois inhérentes aux Grecs et parfois voulues, invitait donc à reprendre de plus près l'analyse des œuvres, des usages, des mots. C'était là ouvrir un domaine de recherche fascinant mais périlleux. Du moins il l'eût été s'il n'avait pas existé un autre trait, plus caractéristique encore, dont l'étude historique a révélé toute l'importance dans la civilisation de la Grèce ancienne et qui en définit l'orientation fondamentale. C'est l'extraordinaire mouvement intérieur qui entraîne cette civilisation dans un élan qui lui est propre. J'ai dit qu'elle était un début, mais le mot même rappelle qu'en quelques siècles, tout a changé. Car la Grèce, si fidèle qu'elle ait été à la combinaison harmonieuse d'éléments opposés ou divers, a pourtant entendu les dominer et les comprendre. Entraînée par un puissant dynamisme intérieur, on la voit qui s'efforce passionnément de mettre de l'ordre. Elle cherche à dégager, de façon lucide, des concepts universels et à se donner un langage précis, permettant une pensée dialectique. De même que la société se renouvelle, de même que sous la poussée d'un idéal agonistique et d'un esprit de compétition, elle s'ouvre à la vie politique de la démocratie et s'arrache à ses anciens cadres, de même avec la science ionienne, avec la médecine hippocratique, avec l'enquête historique d'Hécatée et d'Hérodote, avec la rhétorique et la sophistique qui forgent les armes du raisonnement, un extraordinaire mouvement d'ouverture, de libération et de conquête se dessine, qui mène tout droit à notre science, à notre histoire, à notre philosophie. Pour cela, la langue grecque offre ses merveilleuses ressources, lui permettant de former des expressions abstraites de diverses natures, ou bien des composés qui, selon qu'un élément du mot est changé, traduisent les plus subtiles des distinctions. La langue grecque reflète cette aspiration sans pareil à une pensée rigoureuse. Mais l'essentiel est de bien voir qu'il ne s'agit pas, ici non plus, d'un simple hasard historique. Tous les temps reculés ne sont pas des débuts. Et cet épanouissement dans le temps s'explique par une aspiration profonde qui est à mes yeux le trait le plus spécifique de la Grèce. Il consiste à toujours dépasser l'expérience immédiate afin d'atteindre, à travers elle, l'idée qui peut valoir pour tous. Les œuvres grecques plongent dans le concret, mais pour y retrouver l'humain. Thucydide a souffert de la peste. Sa réaction est d'analyser le développement de la maladie avec toutes sortes de détails techniques. Mais il s'agit, explique-t-il, du développement type. Il en décrit « ten idean », la forme générale, pour le cas où elle viendrait un jour à se reproduire. De même, il rapporte l'événement historique tel qu'il fut, en son lieu, sans commentaire ni distorsion. Pourtant, le récit est si bien épuré, si bien préparé par les discours, qu'il laisse voir en transparence le jeu des forces essentielles et confère aux particuliers une portée qui est générale. Le résultat est que 25 siècles après, et malgré la lassitude qu'inspirait la guerre du Péloponnèse aux contemporains de Mably, les auteurs nous reviennent avec des études qui s'intitulent « La campagne avec Thucydide »,« Thucydides and the World War »,« Thucydides und Vir ». De même, Eschyle a consacré sa tragédie des Perses à la victoire de Salamine, où il avait lui-même combattu 8 ans plus tôt. Or, il omet les noms propres et les détails patriotiques, pour n'évoquer que le désastre d'un peuple naguère comblé de puissance et ruiné par la main des dieux. Et après tout, le sens même du tragique, qu'ont inventé les Grecs, n'est-il pas une disposition à reconnaître, dans les drames singuliers, et parfois saugrenus, de la mythologie, l'image des limites fondamentales attachées à la condition humaine? La tragédie est concrète, elle fait voir, mais ce qu'elle fait voir est le rapport entre l'homme et son destin. Cette tendance, qui donne aux œuvres leur profondeur et leur éclat exceptionnel, s'applique à tous les domaines. Elle se retrouve dans la science grecque, si détachée du souci pratique, si éprise de connaissances pures. Elle se reflète aussi dans l'art. Mais surtout, c'est elle aussi qui explique, dans le temps, la longue évolution qui mène les Grecs à la conquête d'une pensée qui se précise. Celle-ci se fait jour tout d'abord au ras des mots et des idées dont se nourrit la vie quotidienne. Au début, tout allait de soi. Les héros d'Homère étaient tout ensemble beaux et bons, forts et riches. Ne s'est-on pas amusé de cet adjectif, agathos, que les dictionnaires traduisaient par une assimilation inaccoutumée, bon, brave à la guerre. Or le kalos kagathos y joignait encore la beauté. Mais les notions n'ont pas tardé à se distinguer, à s'opposer. Les textes nous parlent très tôt de l'opposition du riche et du juste, de la bravoure et de la sagesse. Cette mise en question, cette mise en forme, une fois commencée, ne s'arrête plus. Elle passe par le besoin de justice d'Hésiode ou de Solon, par le besoin d'ordre d'Eschyle, par le besoin de comparaison d'Hérodote. Elle aboutit à l'époque des grands questionneurs, Socrate, qui demande à chacun des définitions et des raisons, les sophistes, qui se demandent le pourquoi des valeurs reçues, mais aussi Euripide, qui demande, au plus vif de ses tragédies, si la nature compte plus que l'éducation, ou bien si la vertu s'enseigne, et aussi Aristophane, qui demande ce que valent les questions des sophistes. Je ne parle pas de Thucydide qui demande le pourquoi de la grandeur d'Athènes et de sa chute. Toutes ces questions se posent pendant la guerre du Péloponnèse, en ce 5e siècle, qui reste pour moi le grand siècle, non pas pour la perfection de ses œuvres, mais pour le rythme accéléré de ses interrogations. Puis, après les questions, les thèses. Voici qu'arrive le 4e siècle. Bientôt, les critères des sophistes sont refusés par Platon. Entre Isocrate et lui, entre Aristote et lui, tout est plein de débats, de rectifications, de polémiques secrètes. Et de ces débats naissent les grands systèmes, ceux de Platon puis d'Aristote, qui constitueront les bases où prendront appui les écoles philosophiques en Grèce puis hors de Grèce pendant des siècles. D'Homère aux philosophies les plus élaborées, l'élan de clarification se poursuit, sans coupure ni temps mort. Cette évolution, une fois reconnue, ajoute à chacune des œuvres une dimension nouvelle, et elle permet d'enrichir leur sens par la comparaison. Elle se traduit aussi, par-delà les œuvres, dans l'histoire même des thèmes ou dans celle des genres littéraires. Certes, l'idée de suivre ce progrès n'était pas, là non plus, une découverte. Dès le début du renouveau historique, la subtilité du dialogue sans cesse repris entre les doctrines avait été illustrée par l'étude des relations de détail existant entre les textes et témoignant d'une réflexion commune au sein de laquelle les formules se répondent. Tel rapprochement permettait de conclure à l'existence d'une source commune. Telle différence impliquait une intention, tacite mais délibérée, de polémique. Cependant, on a récemment été plus loin dans ce sens. On a voulu suivre l'histoire de ces corrections successives. Et ce n'est pas un hasard si l'on a vu se répandre, dans ces dernières années, des études que l'on peut appeler verticales et qui traitent d'une idée à travers toute la suite des textes où elle apparaît avec une importance variable. Et certains ne s'en sont pas tenus là. On s'est en effet avisé, au cours des 30 ou 40 dernières années, que même ce qui n'était pas doctrine formulée prêtait à une histoire comparable, que même les formes essentielles de la sensibilité, même les concepts fondamentaux, tout ce qui sert à définir le moi, la sensibilité, l'intelligence ou bien l'appréhension de l'espace et de la durée, avaient été progressivement conquis et délimités. J'ai cité tout à l'heure le nom d'un Anglais, je citerai ici deux Allemands. Le premier est Hermann Frankel, qui montra que cette maturation se manifeste jusque dans la sensibilité au temps ou dans l'enchaînement même des idées. Parmi ses travaux, le recueil intitulé « Wege und Formen Frühgriechischen Denkens », paru en 1955, est particulièrement riche et porte un titre révélateur. Le second est Bruno Snell, qui donna à l'un de ses livres le titre non moins révélateur de « Die Entdeckung des Geistes ». Le livre est de 1948. Il tend à montrer que ce qui est pour nous la vie intérieure de l'homme s'est défini progressivement à partir d'un état premier où intériorité et extériorité étaient souvent indistinctes. De telles perspectives, qui ouvraient à l'esprit historique un domaine nouveau, ont suscité l'émulation et la discussion. En tout cas, elles ont encore accentué la portée de cette évolution profonde dans laquelle tout semble être pris. Et la curiosité ainsi suscitée explique sans doute la vogue connue récemment par les études consacrées à l'histoire même des valeurs, qui en est le reflet le plus clair. Découverte de l'esprit, découverte des valeurs, histoire des mots et des idées, tout cela, qui enrichit, je l'ai dit, le sens de chaque œuvre en la situant dans une histoire vivante, suggère aussi que la littérature grecque et la civilisation grecque constituent un terrain d'élection pour qui veut voir notre monde, nos formes de pensée, nos idées et nos mots en train de s'élaborer. Et ceci justifie la présence du mot « formation » dans le titre de la chaire à laquelle le Collège de France vient de m'appeler. Cependant, il reste à préciser bien des choses. et les perspectives très générales que je viens d'évoquer, si elles suggèrent une orientation d'ensemble, peuvent n'être pas sans danger. Comme presque toujours, lorsqu'il s'agit de perspectives neuves, il a fallu commencer par des hypothèses d'essai et des synthèses générales, destinées à être ensuite reprises et rectifiées. Pour mener un tel travail à bonne fin, il devient nécessaire de définir un domaine et une méthode qui soient des garanties de rigueur. Je m'approche à présent de mon projet, de mes projets. Le domaine est indiqué dans le titre de la chaire. Il s'agit de la pensée morale et politique. Ces deux aspects n'en font qu'un pour les Grecs et qui passent avant tout autre. Il n'est pas une tragédie d'Eschyle, de Sophocle ou d'Euripide qui ne débattent des devoirs incombant au roi, au héros ou au simple citoyen, ou bien qui ne mettent en avant leur rapport avec la cité. Or, le même trait se retrouve dans toutes les formes d'expression ou presque. De plus, s'il est vrai que ceux qui s'occupent directement de politique, comme les historiens ou les orateurs, sont toujours un peu ou beaucoup des moralistes, inversement, ceux qui s'occupent d'idées morales, comme les philosophes, se soucient toujours au premier chef de la cité. Ils écrivent la République, les lois, la politique. Je ne doute pas que ce trait, qui trouve un écho dans notre monde contemporain si hanté par le primat du politique, n'ajoute de nos jours un intérêt de plus aux œuvres grecques elles-mêmes. Pour ne parler que de la guerre, il est clair que ces horreurs nous rapprochent d'Eschyle ou d'Euripide, tout comme sa conduite renvoie à Thucydide. Il peut même y avoir là une justification accessoire au choix d'un tel domaine. Mais l'essentiel est à cet égard que l'importance même de ces thèmes pour les auteurs grecs rend la série des témoignages plus riche, plus continue, plus étroitement cohérente, et que cette abondance même est un premier gage de rigueur. Mais ce gage ne suffit pas, et dans la méthode à employer, je voudrais m'entourer de deux autres garanties. La première est de m'attacher aux mots, au vocabulaire, aux formulations exactes. Car je dois trop à l'influence de Pierre Chantraine et à ses merveilleux travaux sur le vocabulaire grec pour ne pas avoir appris que la vie de la pensée se traduit en tout premier lieu dans la vie même des instruments qu'elle se donne. Le logos grec est pensée, mais aussi parole. D'abord, l'existence ou l'absence des mots aide à cerner l'importance relative des idées correspondantes. J'aimerais rappeler ici combien j'avais été frappée, en lisant naguère les mémoires du japonais Fukuzawa, de le voir expliquer quelles difficultés il avait eues, vers 1865, à rendre en japonais la notion de concurrence, compétition, qu'il rencontrait dans des textes anglais relatifs à l'économie. Il dut forger un mot qui surprit et scandalisa le ministre à qui il soumettait son texte. Sans doute la réalité de la concurrence devait-elle exister, modestement, dans la société d'alors. Mais n'ayant pas de nom, celle-ci n'était pas reconnue et ne pouvait prêter à aucune réflexion. Les Japonais, sur ce point, ont fait des progrès depuis. En tout cas, cet exemple, auquel je pourrais en joindre d'autres empruntés au même auteur, fait, je crois, mesurer la part de découverte que représente la naissance d'un mot ou bien sa diffusion. Des quatre mots signifiant « douceur » que j'étudierais dans mon séminaire, un seul existait chez Homère, avec cette valeur. Les autres sont apparus peu à peu, et de toute évidence, leur succès répond à des besoins nouveaux. En outre, ces mots, une fois lancés, ont leur vie et leur histoire. Leur signification varie, ou simplement elle se précise. Veut-on l'exemple d'un beau mot dont le sens, aujourd'hui encore, mérite réflexion. Je pense au mot signifiant « libre »,« eleutheros ». Un examen, même rapide, permet de constater qu'il s'est d'abord employé pour traduire le contraste simple et clair avec l'esclavage né de la guerre ou de la défaite. C'est bien pourquoi la liberté d'un homme devait toujours être, pour les Grecs, fonction directe de celle de sa cité. Puis le mot prend un sens à l'intérieur de la cité, où il s'oppose au despotisme. Et le voici qui, peu à peu, s'enrichit de toute une réflexion sur les conditions de la liberté politique, sur sa valeur et sur ses dangers. En même temps, le mot se nuance. Il commence à qualifier des conduites dignes d'un homme libre. Et l'on voit surgir à ses côtés le mot « Eleutherios », si fréquent au début du IVe siècle, et qui signifie en gros « libéral ». On est alors sur la voie d'une intériorisation qui aboutira, entre autres, à la liberté stoïcienne. Tout cela ne se fait pas en un jour, et pourtant, tout cela ne mène pas encore jusqu'aux valeurs modernes du mot. Au terme de l'évolution, on ne songe pas encore, dans le domaine politique, à dissocier liberté et puissance. Et si l'on aboutit peut-être à notre liberté, l'on n'aboutit aucunement à nos libertés, qui sont revendiquées par rapport à l'État. La différence même est éclairante. Et c'est souvent le cas. Pour ne citer que des exemples bien connus et presque traditionnels, chacun sait, ou devrait savoir, que le mot grec qui désignait les régimes politiques, le mot « politeia », ne se définissait pas alors par de simples institutions. Ou que le mot « d'historié », « histoire », désignait une enquête qui ne portait pas spécialement sur le passé. Tous les mots un peu abstraits ont ainsi leur histoire, qui commence en Grèce et où se reflète en toute clarté la formation progressive des idées. Je m'attacherai donc à l'histoire des mots, pour laquelle les repères sont précis et rigoureux. Mais est-il nécessaire d'ajouter que les cadres ainsi fournis devront être complétés ? Aucune étude de notion ne saurait être mécanique. Et je ne fais pas tant allusion ici à ces significations implicites que j'évoquais tout à l'heure, et dont au reste je me méfie si elles ne trouvent pas une confirmation concrète dans des particularités du texte qui soient indiscutables. Je vise le sens tout clair, l'histoire racontée ou représentée. Ainsi, j'ai cru pouvoir montrer que le mot « homonoia », signifiant la concorde, se répandait soudain dans nos textes aux alentours de 411. Mais comment ne pas y joindre le fait que vers la même époque, la tragédie de Ripide, intitulée « Les Phéniciennes » et consacrée à la guerre des Sept contre Thèbes, choisit précisément de montrer les horreurs d'une guerre fratricide ruineuse pour la cité. Elle parle de réconciliation, non de concorde. Mais la date correspond et le mouvement de pensée est similaire. Si l'histoire des mots offre donc un certain nombre de points fixes, elle tire du sens des œuvres sa substance vivante. Et tout vient s'insérer dans l'histoire de cette élaboration progressive dont la Grèce nous a laissé le tracé lisible. L'histoire de ces surgissements et de ces découvertes a quelque chose en soi d'admirable. J'ajouterais volontiers qu'elle devrait nous permettre, par un mouvement inverse, de remonter jusqu'aux catégories primitives à partir desquelles les divers concepts ont pris naissance et qui définissent les cadres mêmes de notre pensée. L'histoire, alors, une fois sa tâche remplie, tendrait à révéler, par une sorte de décantation, les structures premières de l'esprit ou de la société. Rêve lointain, j'en conviens. Ne faisons donc pas comme Thalès, et si nous voulons progresser, regardons d'abord à nos pieds. Je n'ai encore cité que la première des deux garanties de méthode dont je souhaite m'entourer. La seconde est de rattacher cette recherche sur les idées à des bases bien concrètes. Car leur évolution ne se fait pas ex nihilo. Et la mise à jour des influences qui l'expliquent peut seule en corroborer le tracé. Ces influences ne sauraient être que littéraires, au sens large du terme, ou bien historiques, c'est-à-dire émanant de l'événement. On réagit et à des textes et à des faits. Or, dans l'histoire close et resserrée des cités grecques, ces deux sortes d'influences s'exercent de façon beaucoup plus forte et nette qu'ailleurs. Chaque auteur répond au précédent, reprend ses formules, corrige ses affirmations, essaie de résoudre ses problèmes. mais chaque auteur aussi participe intensément au sort, bon ou mauvais, de la collectivité. Sophocle et Thucydide ont affirmé ce lien entre l'individu et la cité en des termes presque semblables. Et jusque vers la fin du 5e siècle, où commence ce que l'on peut appeler la crise de la cité, il reste extraordinairement réel et étroit. Tout progrès d'une notion ou d'une doctrine a donc ses racines dans cette expérience politique, et c'est là qu'il faut les chercher. Aussi bien puisque j'évoquais tout à l'heure le surgissement du mot « homonoia », désignant la concorde, comment douter que sa vogue soudaine ne soit liée au drame de la cité divisée en 411 ? De même, les valeurs morales prônées par le IVe siècle, la douceur envers les alliés en est une, ne se comprennent pas sans l'expérience de l'impérialisme athénien et de ses déboires. Et à la limite, même le refus platonicien de s'insérer dans la vie réelle de la cité telle qu'elle était n'a pas de sens si on le coupe des troubles de la cité divisée et du désastre de 404. La pensée se précise au contact de l'événement. Ainsi s'explique la continuité même de la réflexion politique en Grèce. Continuité que la ruine de tant de textes n'arrive pas à oblitérer. Et telles sont les fondations sur lesquelles il est raisonnable de chercher à édifier son histoire. Cette histoire, sous ce jour, ne fait encore que commencer. Elle n'a été pratiquée qu'en des essais brefs, partiels et peu systématiques. On peut espérer la poursuivre, à condition de pratiquer avec une égale rigueur les rapprochements entre les textes, les rapprochements avec les faits. Ces perspectives expliquent le choix des sujets auxquels sera cette année consacré mon enseignement. Le souci de m'appuyer sur l'histoire du vocabulaire inspire le choix du sujet de mon séminaire, qui sera un cours plus spécialisé. Il sera centré tout entier sur un groupe de mots de sens voisins qui sont apparus à des époques diverses et se sont alors répandus dans la littérature et les documents grecs. Ces mots, qui désignent la douceur et l'indulgence, épios, praos, épiékès, philanthropos, pourraient sembler a priori assez étrangers à la morale grecque, plus éprise d'héroïsme ou de justice que de bonté ou de tolérance, voire de la fameuse clémentia romaine. Il est d'autant plus remarquable de constater que sous l'influence de l'expérience politique, on les voit se répandre et s'imposer, mais aussi s'user, en tout cas se diversifier. Nous nous efforcerons de dégager les modalités et le sens de ces divers changements. Quant au souci de respecter l'influence de l'événement et la continuité du progrès qui en est la conséquence, il inspire le choix de mon sujet de cours. Celui-ci tentera d'établir un rapport entre les réflexions sur les divers régimes politiques, réflexions qui parfois paraissent des spéculations si théoriques, et l'aventure même de la cité aux prises avec ses luttes extérieures. Ainsi sera rétabli, à côté de la ligne qui passe par les sophistes, par Platon et par Aristote, l'histoire d'une réflexion plus concrète qui passe par Hérodote, Thucydide, Isocrate et Polybe, et le rapport qui lie entre elles ces deux séries pourra les éclairer l'une et l'autre. À cette seule description, vous reconnaîtrez que mon souci va tout juste à l'inverse de celui qui prévaut actuellement dans les études historiques. Celle-ci cherche à reconstituer une certaine vérité qui a le plus souvent échappé aux témoins de l'événement. Elles tendent à négliger l'événement pour chercher dans des niveaux de réalité plus profonds, économiques et sociaux en particulier, quelque chose qui l'explique et compte plus que lui. Mon mouvement est exactement inverse. Je ne me tiendrai pas, moi non plus, au niveau de l'événement. Mais au lieu de m'efforcer d'écarter la part de subjectivisme, d'arbitraire ou d'engagement qui marque inévitablement la représentation que s'en faisaient les contemporains, c'est précisément là ce dont je partirai. Je ne veux l'événement que sous la forme qu'il a prise à travers le prisme de la conscience grecque. C'est ce prisme qui m'émerveille. On excusera, j'espère, cette orientation à contre-courant. en tenant compte du fait qu'elle est ici avouée, et en se souvenant que l'esprit grec lui-même impose ce mouvement vers l'idée, à jamais rendu sensible par Platon dans le mythe de la caverne. Telle est l'orientation que je compte donner à mon enseignement. Je l'ai moins choisie qu'elle ne s'est imposée à moi. Quand on aborde une recherche, on vit d'espoir, puis d'inquiétude. Bientôt, l'on ne peut plus la quitter parce que, de doutes en illumination, d'agacement en recommencement, elle vous tourmente sans cesse, c'est-à-dire vous intéresse. Cet intérêt aura été assez vif pour me faire tenter l'aventure, m'arrachant à cette université de Paris-Sorbonne, où en dépit des misères où se débattent les universités, j'étais vraiment heureuse, à ses collègues de l'Institut de grec ou d'autres disciplines, auxquels me lie depuis longtemps une amitié et souvent une affection qui fut toujours sans nuages, et aussi à ses étudiants, que j'avais une joie toujours neuve à retrouver et à guider. On me permettra de leur dire, avant de conclure, combien j'aurais à cœur que ces divers liens ne soient pas rompus, et combien j'aurais encore besoin d'aide dans l'entreprise qui m'attend ici. Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, mesdames, messieurs, voilà donc en quel sens j'entends poursuivre mon travail dans cette chaire qui a reçu pour titre « La Grèce et la formation de la pensée morale et politique ». J'ajouterai seulement que ce titre pourrait prêter à un malentendu. La formation dont il est question ne se situe que dans la Grèce antique, et je n'en éclairerai jamais que des phases et des aspects étroitement limités. Mais peut-être l'ambiguïté est-elle ici salutaire, car il reste vrai qu'à mes yeux, l'intérêt de telles recherches s'accroît du prolongement qu'elles peuvent avoir dans notre monde d'aujourd'hui. Si petit à petit, elles aident à distinguer dans les démarches de l'esprit ce qui est essentiel ou bien adventice, si par l'identification ou par le contraste, elle contribue à clarifier le sens de mots et de doctrines qui ont encore cours de nos jours, je n'en serai que plus heureuse. Après tout, les Grecs eux-mêmes avaient conscience du fait qu'ils inventaient une culture qui vaudrait par-delà la Grèce. J'en appellerai, pour le prouver, au témoignage du moins brillant des auteurs grecs, et je vous citerai ce que dit Isocrate dans le Panégyrique. Notre cité a si bien distancé le reste de l'humanité pour la pensée et la parole que ses élèves sont devenus les maîtres des autres. Par son action, le nom de grec est apparu comme celui non plus d'une race, mais d'une culture. Et l'on appelle plus volontiers grec non pas ceux que lie une commune origine, mais ceux qui participent de notre éducation. Un peuple qui a placé là sa fierté mérite bien que l'on se demande par quels moyens il en est venu là et comment s'est fait ce que vous me permettrez d'appeler, pour finir malgré tout par un mot à la mode, cette mutation.
C'était la leçon inaugurale de Jacqueline de Romilly au Collège de France le 13 décembre 1973. Lecture de Clémence Azincourt. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations liées à cette diffusion. Réalisation Diffé Mariani. Coordination Meryl Moneghetti. La semaine prochaine, Michel Foucault. Belle fin de journée à l'écoute de France Culture.